Nous remercions le Seigneur qui nous a permis d'être ici ce matin, non seulement pour adorer son grand nom, son saint nom, mais aussi pour être son porte-parole en cette circonstance. Et nous voulons encore une fois remercier Pasteur Fortuné qui nous a donné cette opportunité en nous permettant de parler au nom du Seigneur, donc en nous cédant sa place, la place qui lui revient, comme pasteur responsable pour être ici ce matin comme porte-parole encore une fois du Seigneur. C'est une grâce et c'est un privilège que Dieu nous donne et nous voulons vraiment et sincèrement le remercier pour cela. Alors sans plus tarder, nous allons lire quelques versets que nous trouvons dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean à partir du chapitre 5, nous allons lire les 15 premiers versets. Nous lirons peut-être deux versets de plus, mais en tout cas, l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 15. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche. » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pèche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Notre Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Nous voulons te dire merci pour ton amour, pour cette parole que tu as laissée pour nous et cette parole qui nous dépasse parce qu'elle vient de toi. Nous te prions, Seigneur, d'être avec nous en cet instant, non seulement pour pouvoir parler de la manière dont nous devons le faire, mais aussi pour comprendre ce que tu veux nous dire par cette parole et comment pouvons-nous l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Nous prions pour ton peuple, Seigneur, qui est ici et qui est venu justement pour ce moment, pour entendre quelque chose de toi. Nous te demandons, Seigneur, de permettre à chacun de nous ici présents de pouvoir sortir avec quelque chose qui vient vraiment de toi et que nous pouvons utiliser, appliquer dans notre vie de tous les jours. S'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore ce matin, nous prions que ton esprit puisse leur parler de manière la plus directe possible, la plus solennelle possible, afin qu'ils comprennent, ô notre Dieu, qu'ils ont besoin de toi, qu'ils ont besoin de ce Jésus qui est capable de tout faire. Et sinon, leur situation serait catastrophique. Ô Père, sois avec nous, Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Notre sujet pour ce matin, c'est la même question que Jésus a posée au paralytique. Veux-tu être guéri? Lors de la précédente rencontre de Jésus, nous l'avons vu s'entretenir sans complexe avec une femme dont la réputation laissait à désirer. En effet, nous l'avons vu mettre de côté les tabous, les préjugés de son époque vis-à-vis des catégories rejetées de la société pour converser avec une Samaritaine. Et c'est à elle qu'il allait faire l'une de ses plus importantes déclarations, à savoir qu'il est le Messie, celui dont on attendait la venue pour le salut du peuple. Nous avons aussi vu qu'une fois accédée au salut, la Samaritaine n'avait pas perdu de temps. Elle alla tout de suite témoigner, elle alla tout de suite annoncer la bonne nouvelle à ceux-là même dont elle fuyait le regard. Et son témoignage avait porté fruit. Toujours lors de cette rencontre, nous avons vu Jésus laisser Jérusalem pour se rendre en Galilée. Dans ce chapitre, il prend le chemin inverse. Il retourne à Jérusalem. Et c'est là qu'il va rencontrer cet homme malade depuis 38 ans à qui il va demander « Veux-tu être guéri ?» Alors, pour déchiffrer ce passage, nous proposons le plan suivant. D'abord, le décor. Verset 1er au verset 4, et nous mettons le verset 4 entre guillemets ou entre parenthèses, et nous allons expliquer pourquoi. Deuxième élément, rencontre entre Jésus et le paralysé, verset 5 à 7. Jésus opère un miracle, verset 8 et 9. Quatrième point, début de l'opposition des responsables juifs vis-à-vis de Jésus. Début de l'opposition des responsables juifs vis-à-vis de Jésus, les versets 10 à 13, ensuite le verset 15 et suivant, même si nous n'allons pas rentrer dans les détails des autres versets. Et avertissement de Jésus, c'est le verset 14, et finalement, nous allons conclure. Donc, c'est la conclusion. D'abord, le décor du verset 1er au verset 4. Le texte nous dit « après cela », donc c'est le verset 1. Il est question de ce que Jean vient de rapporter au chapitre précédent parce que Jésus a guéri le fils d'un officier romain. C'est la dernière chose qu'il a rapporté au chapitre 4. Nous voyons Jésus remonter à Jérusalem, contrairement à la dernière fois où il devait quitter Jérusalem pour éviter une confrontation ou en tout cas une division entre ses disciples et ceux de Jean. La fête n'est pas spécifiée, mais on est en droit de supposer qu'elle soit une des trois fêtes auxquelles tout mâle juif devait participer, à savoir la fête de Pâques, la fête des semaines et ou la fête des tabernacles. En fait, on dit la fête des semaines ou en fait ce qu'on appelle le début, on appelle aussi cette fête-là le début des récoltes. Le tabernacle, c'est la tente, c'est la fête des cabanes et également la fête de la fin des récoltes. Pour voir plus clair, nous avons deux textes. D'abord, Deutéronome, chapitre 16, verset 16. Deutéronome, chapitre 16, verset 16. Si c'est possible, oui, merci. Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain. Donc, c'est une fois. À la fête des semaines, deuxième fois. Et à la fête des tabernacles ou la fête des tentes ou la fête des cabanes qu'on appelle. Et encore une explication plus claire à l'Exode chapitre 23, et nous allons considérer les versets 14 à 17. Exode chapitre 23, versets 14 à 17. Encore trois fois par année, merci, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Verset 15, tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera point avide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Donc, on voit qu'il y a la fête des semaines, il y a aussi la fête du début des récoltes et la fête de la fin des récoltes. Au verset 17, 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Donc, je pense que même s'il n'est pas spécifié, eh bien, Jésus est remonté à Jérusalem pour participer à l'une de ces fêtes. La scène se passe autour du temple, près de la porte des brebis. C'est un endroit où les gens amenaient leurs brebis pour être sacrifiés. Et le texte nous parle également, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Le mot Bethesda, ça veut dire lieu ou maison. En fait, des spécialistes disent que ça peut être lieu ou maison de miséricorde ou lieu de débordement si on considère les deux piscines qui étaient là. Donc, Bethesda vient du mot hébreu Bahit ou Bet en hébreu qui veut dire maison et Esda, Edzedaim, quelque chose comme ça, qui veut dire lieu de miséricorde. En fait, dès que vous voyez le mot Bet ou comme Bethléem, Bahit, Lérem, c'est maison du pain. Donc, le mot Bet en hébreu, c'est maison. Et vers le verset 3 et le verset 4, la fin du verset 3, comme je vous ai dit de mettre entre parenthèses le verset 4, eh bien, c'est parce que dans la plupart des versions bibliques ou des versions des textes anciens, il semble que ce verset-là n'existe pas. Donc, si on considère à partir du verset 3, à la fin du verset 3, qui attendait le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait, etc., jusqu'à maladie, toute cette partie-là ne se trouve pas dans les manuscrits les plus anciens. Il semble que c'est une note explicative des scribes qui a été incorporée dans le texte. Donc, les scribes, ceux qui devaient retranscrire le texte biblique, ben, ils mettaient des notes à côté, des notes explicatives pour expliquer tel verset, pour expliquer telle situation. Avec le temps, il semble que cette explication-là a été incorporée dans le texte. C'est pour ça que la plupart des versions bibliques, eh bien, on voit pas ce texte-là. Si vous avez une version biblique Semeur, Bible d'études Semeur 2000 et plus, justement, vous n'allez pas voir cette partie ni le verset au complet. Et dans plusieurs autres versions, on le met pas. Et les versions qui le mettent entre parenthèses ou entre guillemets et donnent une explication à cela. Alors, voilà. Deuxième élément, c'est la rencontre entre Jésus et le paralysé. Au verset 5, nous voyons, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Alors, cela dit, parmi tous les malades qui attendaient au bord de cette piscine, il y avait cet homme malade depuis 38 ans. Imaginez que quand cet homme est tombé malade, eh bien, Jésus n'était pas encore né quand il est tombé malade. Parce que Jésus est mort à 33 ans. Donc, lui, il avait 38 ans. En fait, il était malade depuis 38 ans. Le texte ne dit pas quel âge qu'il avait, mais sa maladie a duré 38 ans. Et pendant 38 ans, encore une fois, personne n'a eu pitié de lui. Personne ne dit, eh bien, aujourd'hui, eh bien, ça fait 20 ans que tu viens ici. Ah ben, on va te donner une chance. Ça fait 25 ans, ça fait 30 ans. Ah, ça fait 35 ans que tu es ici. On va te laisser passer. Personne ne lui a donné cette chance-là. Comme nous disons dans notre vernaculaire, c'est « point ne fait pas ». C'est « chaque coucou éclairé pour Géo ». Donc, c'est du chacun pour soi, en tout cas. Et parmi tous les malades, parce qu'ils étaient en grand nombre, le texte nous dit, là se trouvait etc. Donc, en tout cas, il dit que les malades étaient en grand nombre. Et parmi tous ces malades-là, selon le verset 3 qui dit « en grand nombre de malades », effectivement, eh bien, ou couché à cet endroit, Jésus va aller vers cet homme. Il va aller vers celui-ci en particulier. Heureusement, disons-nous, Jésus passait par là. Au verset 6, nous voyons Jésus qui sait, il dit que sachant qu'il était là depuis longtemps, soit qu'il le savait parce que Jésus est omniscient, soit parce que quelqu'un d'autre lui a raconté, lui a expliqué que cet homme-là, lui, ça fait 38 ans qu'il vient ici, ça fait 38 ans qu'il est malade. Quand ils disent que les gens sont là, ça ne veut pas dire qu'ils sont restés couchés là du matin au soir, jour après jour, jour après jour. Ils venaient quand ils savaient que ça va être le temps que la piscine va être agitée. Donc, ils venaient. Peut-être qu'il y en a qui étaient là plus souvent ou qui voulaient quand même passer plus souvent que les autres, etc. Alors, Jésus va lui demander cette question, « Eh bien, veux-tu être guéri ?» Apparemment, sa question semble étrange parce que il est là justement parce qu'il veut être guéri. Il est venu justement à cet endroit parce qu'il veut être guéri. Mais Jésus veut avoir toute son attention. Jésus voulait toute son attention. Il voulait montrer qu'il était préoccupé par sa situation. On voit aussi un peu de compassion de la part de Jésus. Et au verset 7, au lieu de répondre directement à la question, parce que c'est une question fermée que Jésus lui a posée, « Veux-tu être guéri ?» Donc la réponse devait être « Oui ou non ?» Donc une question fermée fait appel à une réponse « Oui ou non ?» ou « Vrai ou faux ?» Mais lui, il va expliquer. Au lieu de répondre directement à la question, mais il va trouver une justification. Peut-être se sentait-il coupable de n'être pas parvenu après tant d'années à se jeter en premier dans la piscine. Il trouvait comme c'était dur pour lui de dire à Jésus si oui ou non il veut être guéri, mais il voulait trouver une explication pour donner à Jésus. La nature de sa maladie est inconnue, mais sa réponse montre que c'est quelqu'un qui se déplace difficilement parce qu'il dit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, donc il ne peut pas le faire par lui-même. » Et quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Même s'il pouvait faire un effort d'avancer, mais il ne pouvait pas être le premier à se jeter dans la piscine parce qu'il y en a d'autres qui se sont, ou quelqu'un d'autre qui s'est jeté avant lui. Cependant, il ne pensait surtout pas que Jésus pourrait ou pouvait le guérir complètement. Peut-être quand Jésus lui demanda « Veux-tu être guéri ?», il pouvait penser que, bon, probablement qu'il va m'aider la prochaine fois que la piscine va être agitée, il va m'aider à me jeter dans la piscine en premier. Donc, il faut dire que l'explication qu'il donne, à savoir que « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée », ça n'engage pas l'auteur de l'Évangile, ça n'engage pas Jean. C'est pas Jean qui dit que il y avait ça vraiment, mais c'est lui. C'est son explication à lui. Ça se peut que c'est le débit sporadique des sources qui alimentaient la piscine qui faisait en sorte que il y a eu cette agitation-là. Ou probablement, comme il parle selon le langage populaire, qu'il y avait un ange qui faisait ça effectivement. Mais de toute façon, ce n'est pas sur ça que l'auteur va mettre l'accent. Jean va pas mettre l'accent sur le fait que la piscine est agitée ou non, sur le fait qu'il y avait un ange ou non qui faisait quelque chose pour que la première personne qui se jette dans la piscine soit guérie. Il va mettre l'accent ailleurs. Et ça nous amène à notre troisième point. Jésus opère un miracle. Au verset 8, il va dire, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Et aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Encore une fois, nous revenons au verset 6 où nous voyons la souveraineté de Jésus. Il était malade comme tous les autres. Il n'avait rien fait de spécial. Il ne connaissait pas Jésus et n'avait vraisemblablement même pas entendu parler de Jésus. Au point que quand les responsables lui demandèrent « Qui t'a dit « Prends ton lit et marche » ?» Ben, il ne savait pas qui lui avait dit ça. Donc, on voit que Jésus est allé vers lui directement. Donc, il l'a choisi pour opérer un miracle en sa faveur. On voit aussi l'omniscience de Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Et on voit l'omnipotence de Jésus au verset 8. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Omnipotence, ça veut dire c'est Jésus qui est capable de tout faire. Omniscience, c'est Jésus qui sait tout. Souveraineté, ben c'est Jésus qui décide de par lui-même de faire ce qu'il veut, à qui il le veut, sans intervention de personne. Ce malade n'avait rien de spécial, de particulier, rien qui indiquait que lui, il va mériter telle ou telle grâce. Jésus a pris l'initiative d'aller vers lui et de faire une grâce spéciale. Donc, l'âge de cet homme, encore une fois, n'est pas indiqué, mais il était malade depuis 38 ans. C'était une maladie chronique. Lui-même était découragé. Il commençait à perdre espoir parce que 38 ans, c'est pas 38 jours. 38 ans qu'il venait là. 38 ans qu'il attendait l'agitation de l'eau. 38 ans que personne ne s'occupait de lui. Mais voilà le commandement de Jésus. Prends ton lit et marche. Trois impératifs. Lève-toi, prends ton lit, marche. Ça montre que le Jésus de la Bible, le Jésus historique, celui dont nous chantons les louanges, est vraiment digne d'adoration, car il est tout-puissant. Sur sa parole, l'homme était instantanément, mais complètement, totalement guéri. Ce n'est pas comme une guérison à moitié, mais c'est une guérison à 100%. Avant, il ne pouvait même pas se lever par lui-même de façon adéquate pour pouvoir marcher correctement. Mais maintenant, il est capable de porter sa natte. Il est capable de porter son lit. Jésus dit, et la chose arrive. Il commande et elle existe. Alors, et ceci indépendamment de la foi. Ce n'est pas que cet homme-là avait la foi parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Il n'avait pas la foi. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Et au lieu de dire oui ou non à Jésus, mais il commence à expliquer. Et à l'instant, Jésus opère un miracle en sa faveur. Donc, il n'avait pas la foi. Et il y a plusieurs textes également qui montrent que la puissance de Jésus ou la puissance de Dieu n'est pas liée à notre foi. Ce n'est pas vrai que c'est parce qu'on a la foi. Jésus peut faire n'importe quoi, même si qu'on le croit ou non. Il fait tout ce qu'il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut, aux gens qu'il veut, indépendamment des circonstances. Et nous avons plusieurs textes qui le démontrent. Dans Matthieu chapitre 9, les versets 32 et 33, nous voyons un démon qui rendait muet quelqu'un, un malade. Et Jésus chassa ce démon-là sans demander la permission, sans poser de questions à la personne malade. Dans Jean chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, il y avait un aveugle né de naissance que Jésus a permis de recouvrir la vue. Et lui, il n'avait pas posé de questions. Et aussi Lazare, quand il était mort, quand Jésus a dit « Lève-toi », mais lui n'avait pas fait preuve de foi parce qu'il était de toute façon mort. Il ne pouvait pas rien faire. Donc, Jésus l'a ressuscité. Donc, Dieu n'est lié à rien. Il fait tout ce qu'il veut, indépendamment des circonstances. Donc, tout comme cet homme qui n'avait rien de méritoire, tout comme cet homme qui était malade comme les autres, un impotent qui ne connaissait pas Dieu, qui ne connaissait pas Jésus, qui n'avait ni la foi ni rien de spécial, eh bien, c'est la même chose dans le domaine spirituel. C'est la même chose. Dieu nous sauve grâce à son grand amour. Dieu nous sauve grâce à son grand amour. Voilà pourquoi tout le mérite va à lui et à lui seul. Nous ne sommes pas mieux que ceux du dehors. Nous ne sommes pas mieux entre nous. Nous ne sommes pas mieux en comparaison à ceux qu'il sauve. Pourquoi? Parce que il nous sauve sur la base de sa grâce seule. Dieu n'a pas regardé dans le ciel et ensuite il a dit « Ah, je vois un tel, il pouvait faire un bon prédicateur, une bonne dame missionnaire, etc. Un grand choriste, etc. » Non, non, non. Il nous a choisis comme ça, par son grand amour. Et c'est pour ça, toute la gloire est à lui et à lui seul, au point que même la foi est une grâce de Dieu. Même la foi que nous avons, même le fait de croire en Dieu, c'est la grâce qui nous a fait. Car c'est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La foi même ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Pourquoi? Pour que personne ne se glorifie. Et on voit le début de l'opposition des responsables juifs vis-à-vis de Jésus. À partir du verset 10, nous le voyons. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » L'opposition commence à s'organiser et ça va culminer à la crucifixion de Jésus. Ça commence là, mais ça va se terminer à la croix, où Jésus va subir le châtiment ultime à cause de ces choses qu'il faisait pour nous, pour des gens comme nous, comme moi, comme vous, ce matin. On voit que les responsables, ils n'étaient pas intéressés à l'homme, ils n'étaient pas intéressés à son bien-être, ils ne lui ont pas demandé, mais voyons, comment se fait-il que tu es guéri maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Non, ce n'était pas ça leur question. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. Donc, eux sont intéressés par leur loi, sont intéressés par les règles qu'ils ont mises en avant pour expliquer qu'est-ce qu'on ne doit pas porter, etc. Mais tandis que le commandement de Dieu, quand la Bible dit qu'il faut se reposer le septième jour, c'est se reposer de son travail régulier, le travail qui nous apporte un gain. Et nous pouvons voir quelques versets. Exode chapitre 20, verset 10, par exemple. Regardons Exode chapitre 20, verset 10. Il dit, « Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Regardons le Néhémie chapitre 13, verset 15. Néhémie chapitre 13, verset 15. Merci. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrés des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat, et je leur donnai des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Donc, c'est le travail qui procure un gain, le travail régulier dont il est question ici. Alors, ces gens-là, eh bien, ces responsables, ces pharisiens, ben, ils ont ajouté ou rajouté 39 activités que quelqu'un devait pas faire au jour du sabbat, incluant porter sa natte. On voit l'homme se déresponsabiliser. Il leur dit, celui qui m'a dit, prends ton lit et marche. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. C'est comme si c'est pas sa faute s'il porte son lit. C'est la faute de son guérisseur. C'est la faute de celui qui lui a dit, prends ton lit et marche. Contrairement à l'aveugle du chapitre 9, l'aveugle né que Jésus avait guéri et qui avait tenu tête aux responsables juifs. Quand eux venaient le voir, donc ils l'ont confronté en disant, mais oui, vous ne savez pas d'où il vient. Pourtant, il m'a guéri. Pourtant, j'étais né aveugle, mais aujourd'hui, je vois. Il dit, mais cet homme a un esprit démon. Mais non, s'il a un esprit démon, comment se fait-il qu'il m'ait guéri? Parce que Dieu ne s'associe pas aux gens qui pratiquent des œuvres mauvaises. Donc, il avait tenu tête aux Juifs, aux responsables. Mais cet homme-ci, eh bien, il semble qu'il est un peu plus lâche et il veut pas comme perdre le privilège de ne pas se présenter dans la synagogue parce que les responsables juifs avaient menacé d'exclusion toute personne qui s'associait à Jésus, toute personne qui reconnaissait que Jésus était un prophète, eh bien, toute personne qui reconnaissait que Jésus était un envoyé de Dieu quelconque, eh bien, était exclu de la synagogue. Peut-être qu'il ne voulait pas être exclu de la synagogue. Alors, au verset 15, nous voyons qu'il dit, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Peut-être que vous diriez, ben, c'est par, en signe de reconnaissance, etc., qu'il est allé faire ça. Peut-être. Mais en même temps, il savait très bien que les Juifs voulaient voir Jésus, pas pour le remercier, pas pour dire que vous avez fait un bon travail. C'est pour le confronter, pour dire qu'est-ce que vous faites le jour du sabbat, vous ne respectez pas le sabbat, etc., etc. Et ça nous amène à l'avertissement de Jésus au verset 14, qui dit au verset 14, « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors, la Bible ne nous autorise pas à affirmer que quand un frère ou une sœur souffre, c'est parce qu'il a nécessairement commis un péché particulier, en particulier, ou un péché quelconque. C'est pas ça que la Bible nous dit. Dans ce même évangile au chapitre 9, nous voyons un aveugle né, et les disciples vont demander à Jésus, Seigneur, qu'est-il arrivé à cet homme? Est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus va leur dire, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu. Donc, il est arrivé comme ça, il est né comme ça, il est né aveugle pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pour qu'à ce moment, que je puisse démontrer que je viens de Dieu pour manifester les œuvres de Dieu. Ça, c'est le Jean chapitre 9, verset 3. Hérode avait fait exécuter des Galiléens, dont Jésus a dit qu'ils n'étaient pas de plus grands pécheurs que les autres Galiléens. Et en plus, il y avait la tour de Siloé qui s'est effondrée, qui avait tué 18 personnes, où Jésus a dit, eh bien, ces gens-là n'étaient pas des plus grands pécheurs, mais si vous ne vous repentez pas, eh bien, vous allez périr comme eux. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce que si nous arrive de quoi, c'est pas nécessairement à cause d'un péché quelconque. Quand les sœurs de Lazare envoyèrent dire à Jésus qu'il était malade, celui-ci disait que cette maladie n'était point à la mort, mais elle était pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par lui. Selon Jean chapitre 11, verset 4, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par lui. Donc, il y a des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Dieu permet que ces situations arrivent pour manifester sa gloire, pour manifester sa gloire et aussi son grand amour, parce qu'il veut nous délivrer. Il laisse, il permet que ces choses arrivent parce que après un certain temps, ben, il va manifester sa gloire vis-à-vis de nous. Il dit afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Et effectivement, quand Jésus a ressuscité Lazare, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, il y avait plusieurs des gens qui étaient témoins de cet événement qui ont cru en lui. Plusieurs crurent en lui à cause de la résurrection de Lazare. Et aujourd'hui, nous croyons aussi en Jésus à cause de cela aussi. Même si sans les miracles, nous aurions quand même cru, mais les miracles, ça nous aide à croire que quand Jésus a opéré des choses extraordinaires. Cependant, on ne peut pas nier non plus que certaines tragédies de l'Écriture soit considéré comme la conséquence d'un péché particulier. Pas tous les péchés, sinon on serait tous morts, mais d'un péché particulier, de certains péchés particuliers. Dans l'Ancien Testament, on a plein d'exemples des gens qui ont péché et qui ont subi les conséquences de leur péché. On a l'exemple de Myriam, qui parlait mal de son frère Moïse et qui a été frappée de la lèpre automatiquement par Dieu. On a aussi l'exemple des fils de Corée. Ils remettaient en question le ministère ou l'autorité de Moïse. Eh bien, Dieu les a engloutis tout vivants. Il a ouvert, comme il dit dans le texte, la bouche de la terre et la terre les a engloutis tout vivants. Et Paul va dire aux Corinthiens, par exemple, en fait, avant même d'aller vers Paul, dans le Nouveau Testament, on a Ananias et Saphira. Lorsqu'ils ont vendu le terrain et qu'ils ont rapporté l'argent en disant ben, « voilà le montant pour lequel ils ont vendu le terrain », mais ce n'était pas ça. Ils avaient péché et ils ont payé de leur vie la conséquence de leur péché. Et Paul va dire aux Corinthiens que participer à la table du Seigneur indignement peut conduire à des maladies, peut conduire à des infirmités, même à la mort, selon 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 30 que nous pouvons lire. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 30, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmités et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Encore une fois, il faut faire attention quand nous lisons la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas lire la parole de Dieu comme un journal, comme une nouvelle, comme une lettre, comme quelque chose. Mais on vient de le lire, on met de côté, on le déchire, ça finit là. Il faut lire la parole de Dieu avec intention, avec l'objectif de savoir qu'est-ce que cette parole-là veut dire et comment nous pouvons l'appliquer dans notre vie. Dieu ne nous rend responsables pour la parole que nous avons lue. Dieu nous rend responsables pour les messages, les prédications que nous avons entendues. Dieu nous rend responsables pour les études bibliques auxquelles nous avons participé. Dieu nous rend responsables pour la Bible que nous avons entre les mains parce que c'est sa parole et il faut prendre au sérieux la parole de Dieu. Dieu nous rend responsables. Alors, ici, il est évident que la cause de l'infirmité de cet homme était liée à un péché en particulier. Parce que Jésus va lui dire, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors, Jésus va lui dire de faire attention. Et c'est un avertissement pour chacun de nous, de veiller à ne pas demeurer dans le péché. C'est un avertissement à ne pas demeurer. Le texte de Corinthiens que nous venons de lire, Paul dit clairement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont malades, qui sont infirmes et qu'il y en a qui sont morts. Quand nous demeurons dans le péché, eh bien, Dieu peut en finir avec nous parce que nous n'avons pas écouté sa voix, nous n'avons pas prêté attention à sa parole. Et si Dieu nous accorde une extension, si Dieu nous accorde encore de temps, ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents, nous allons rester là-dedans, mais c'est pour nous repentir et pas continuer à pratiquer les mêmes choses mauvaises. Amen.
Amen.
Alors, en conclusion, eh bien, qu'est-ce que nous avons vu ce matin? Eh bien, que le Seigneur Jésus a pris l'initiative de s'adresser au paralytique en lui proposant une guérison physique qui soit totale et complète. Rappelons-nous qu'il faut toujours considérer les récits de Jean à la lumière de l'objectif qu'il s'était fixé, à savoir démontrer que Jésus est le Christ et qu'en croyant, nous ayons la vie. Chaque fois que vous lisez l'évangile de Jean, gardez ça en tête, son objectif. Qu'est-ce que Jean veut faire comprendre? Il veut démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Et en croyant en Jésus-Christ, nous puissions avoir la vie. Chaque récit qu'il rapporte, c'est pour indiquer que Christ est Dieu. Quand Jésus s'est présenté devant ce paralytique en lui disant « Lève-toi, prends ton lit et marche », ben c'est une parole puissante, une parole qui crée, une parole qui guérit. Et de façon instantanée. Il n'y avait pas de condition. Il n'y avait pas de dire, ben, si tu me dis... Si... Non, non. Lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, ça montre que Jésus est Dieu. Ça montre que Jésus a la même capacité, la même puissance que le Dieu Tout-Puissant. Et non seulement ce miracle parle de lui-même, c'est pas n'importe qui est capable de dire à un paralytique depuis 38 ans, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus n'a pas dit, que tu sois guéri. Non, non, lève-toi, va-t'en. Et aussitôt, toute la maladie, donc en écoutant la voix de Jésus, toute cette maladie chronique, eh bien, il y a tout dégueppi, il y a volé gagué. Eh bien, cet homme, il n'a pas de camaché, il prend Nathalie, il roule Nathalie, en puis, l'y aller, l'y marcher quand même. Non seulement le miracle parle de lui-même, mais l'opposition qui va suivre va mettre encore plus l'emphase sur la divinité de Jésus. À savoir que les pharisiens, voilà, il dit, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs, etc. C'est pourquoi, au verset 16, les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Au verset 18, « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Et c'est exactement ça l'objectif de Jean, montrer que Jésus est le Fils de Dieu, montrer que Jésus est égal à Dieu, montrer que Jésus, les paroles de Jésus ont la même autorité, la même puissance que la parole de Dieu, montrer que Jésus est capable de créer de façon instantanée par sa parole, montrer qu'il est Dieu et montrer qu'en croyant à lui, eh bien, nous puissions avoir la vie. C'est ce que Jean veut montrer. C'est pour ça qu'il a sélectionné ses récits pour démontrer ou pour prouver son objectif. Alors, si Jésus demande encore ce matin, « Veux-tu être guéri? » Eh bien, c'est pour opérer une guérison encore plus complète. C'est pour nous restaurer. C'est pour nous rendre libres, c'est pour nous renouer avec Dieu. Vous savez, notre relation avec Dieu qui était interrompue ou qui s'est brisée en Éden, eh bien, Jésus veut restaurer cette relation. Alors, tout comme ce paralysé qui ne pouvait rien faire pour lui-même, il était impotent, il ne pouvait pas se déplacer de façon adéquate sans l'aide de quelqu'un, eh bien, nous sommes d'autant plus impotents sur le plan spirituel. Et sans l'intervention de Jésus, nous sommes tous voués à l'échec. Il n'y a rien que nous puissions faire et qui va nous rapprocher d'une façon quelconque de Dieu. Absolument rien. Absolument rien. Peut-être que vous ne souffrez pas de maladie physique, mais le péché nous paralyse. Il nous coupe toute relation avec Dieu et Jésus veut rétablir cette relation. Et on voit que cette guérison pourra lui causer quelques torts. Quand Jésus guérit, ça fait du bien aux gens qu'il guérit, aux bénéficiaires, mais ça lui cause des torts à lui. Il guérit moun ki malade là, puis au lieu que il joue une gloire, au lieu que il joue une adoration, eh bien, il a cherché pour tuer. Ça lui cause du tort. C'est pas comme si il faisait ça sachant que ben il va être glorifié. Non, ça lui cause des problèmes, ça lui cause du tort. Et ça va susciter la jalousie de l'ennemi. Il va se mettre en colère. Il va dénigrer Jésus dans les écoles, sur toutes les tribunes, au travail. Mais Jésus a le dos large. Au mettre dénigré, au mettre dit tout sauvelé, il a le dos large, Jésus. Il est capable. Donc, ce matin, je crois qu'il y a sûrement quelqu'un qui aimerait faire la paix avec Dieu. Eh bien, si tel est le cas ce matin, n'hésitez pas. Décidez d'avancer et lui-même fera le reste. Si vous sentez la voix du Seigneur vous parler ce matin, eh bien, il ne faut pas hésiter. Il faut avancer. Il faut décider d'avancer pour faire la paix avec Dieu, pour renouer avec Dieu. Lui-même va vous indiquer le chemin, lui-même va faire le reste. Que l'Esprit Saint nous aide à réaliser que le Seigneur Jésus-Christ ne se lasse pas de manifester de la compassion pour nous. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas de manifester, de montrer de la compassion pour nous. Dans les trous où nous étions, il nous a cherchés, il nous a trouvés, il nous a restaurés, il nous a placés à des endroits spéciaux et il nous prépare, comme il a dit, une place où il nous prendra avec lui, où nous vivrons avec lui pour toujours. Qu'il nous aide à décider de faire la paix avec Dieu son Père. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen.
Amen. C'était bien dit. Alors, après ce message, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a besoin du Seigneur Jésus-Christ, comme le message vient de nous dire, vous avez temps de vous avancer.